Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission au fil des pages, au micro Christian Delors. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Didier Amouroux. Bonjour, monsieur Amouroux.
Bonjour, monsieur Didier. Delors. Bonjour à tous.
Et nous avons invité Didier Amouroux pour le nombre de livres qu'il a écrits et aussi parce qu'il a écrit des livres tout proches de nous. Et nous allons nous attarder tout à l'heure particulièrement sur le troisième livre d'une série qui s'appelle, enfin celui-là s'appelle Recherche en Val de Londres. Pour les gens de Nîmes et Montpellier, ils savent très bien où ça se trouve. C'est juste à côté du Pic Saint-Loup. Alors, Didier Amouroux, vous n'êtes pas littéraire au départ. Vous aimez peut-être la littérature depuis très longtemps, mais vos activités n'étaient pas dans la littérature.
Non, j'ai fait des études jusqu'au baccalauréat qui étaient des études littéraires. Oui. Mais ensuite, j'ai fait des études plus historiques, voilà, de... Et puis après, je n'ai pas travaillé dans la littérature, je n'ai pas enseigné, non, il faut bien gagner sa vie, et donc j'ai fait autre chose. J'ai travaillé d'abord dans l'informatique, alors que je me suis aperçu que j'étais un très mauvais informaticien, mais il m'a fallu l'expérimenter pour ça, et un très mauvais commercial aussi d'ailleurs, mais ça m'a intéressé parce que j'ai rencontré ma clientèle, c'était à Béziers, des chefs d'entreprise. Mmh. C'était un monde que je ne connaissais pas, je ne dis pas que je le connais aujourd'hui, mais enfin j'avais appris des choses. Et puis après, je suis passé à la banque d'entreprise, mmh. c'est-à-dire ce qu'on appelle le leasing pour des grosses machines, vous savez, oui. pour des usines, pour des Caterpillar, des choses comme ça. Donc là encore, l'entreprise. Et ça ne m'a pas plu. Et à l'époque, donc on est dans les années avant 80 tout de même, mmh. le marché du travail était facile, j'étais pas mal diplômé, et j'ai pu choisir autre chose, et je suis passé à... la caisse d'épargne, c'est-à-dire un endroit où je pouvais avoir une relation de proximité avec des gens et en même temps où je pouvais changer de métier tout de même, mmh. puisque c'est un grand établissement. Donc j'ai eu le plaisir de beaucoup venir à Nîmes, à Alès et dans toute la région par ce biais-là. Et j'ai fait 5 ou 6 métiers différents. Et ça, c'est passionnant.
En particulier dans les ressources humaines.
J'ai pas mal travaillé dans les ressources humaines, oui. Pas seulement à la Caisse des Pentes, d'ailleurs, dans une petite entreprise oui. aussi. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé surtout créer des outils, des procédures, oui. recruter des gens, les former. J'ai beaucoup aimé ça. Et je l'ai fait pendant quand même une quinzaine d'années, tout de même.
Mais ça vous a permis de rencontrer beaucoup de gens, de
ah oui.
connaître
ah oui.
ce que sont les gens, des gens très différents.
C'est ça qui est formidable, c'est qu'on rencontre des individus, des femmes et des hommes, qui recherchent du travail, et puis après il y a la formation, donc ils ouais. cherchent un cursus, donc on s'intéresse un peu à leur motivation, on essaie de voir comment ces motivations, ces compétences, peuvent aller avec les besoins de l'entreprise aussi. C'est passionnant, et là, à ma grande surprise, parce qu'aujourd'hui, on dit, quand on est directeur des ressources humaines ou responsable de ressources humaines, on est le vilain petit canard.
Oui.
Eh bien, figurez-vous que des années après, avec mes livres, je roule pas mal dans la région et je rencontre souvent des gens que j'ai parfois oubliés et qui viennent à moi me disant « Mais vous m'avez recruté et ça a été formidable. » Et voilà.
Ah, c'est gratifiant, hein.
Ça fait plaisir pour eux, pour moi.
Et oui, j'imagine. Et on le sent un peu à travers certaines pages de votre livre, ce contact avec les gens que vous connaissez bien. Et donc, ça vous a permis d'alimenter, j'imagine, vos textes, peut-être d'une certaine façon.
Tout à fait. Il y a ça, bien sûr, ce métier. Il y a eu d'autres métiers où j'ai été en contact avec des clients, je vous ai parlé des entreprises, c'était intéressant. Bon, il y a eu un autre aspect où j'ai été en contact avec des sociétaires, donc des membres d'une coopérative. Et puis, il y a encore autre chose, j'ai fait beaucoup d'actions sociales.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai aidé des coopératives d'activité, des associations. Ça aussi, c'est un autre monde très, très, très intéressant humainement. Et enfin, j'ai fait par exemple du microcrédit, donc des petits crédits à des personnes en grande difficulté qui veulent tout simplement se former pour aller travailler, mmh. ou acheter une mobylette pour aller travailler, ouais. ou acheter une voiture, voilà. Ouais. Et enfin, j'ai fait de l'humanitaire en Afrique. Et ah. ça aussi, c'est un complément.
Oui, et là aussi, on comprend pourquoi vous... Enfin, on comprend ce dont vous parlez et qui se passe en Afrique.
Ah oui.
On imagine que...
Oui, l'Afrique, j'ai quand même passé 15 années, de ma, un peu plus, ouais. 17 années de ma vie à monter une association qui aidait des enfants à aller en classe
ah, oui.
dans des villages très, très démunis en Afrique de l'Ouest. Qui aidait des femmes à faire du maraîchage,
oui.
et donc avec tous les problèmes d'eau, de graines.
Dans quel pays ? Au Sénégal ?
Alors, au sud du Sénégal, en région Casamance,
ah, oui.
et au nord de la Guinée-Bissau.
Oui. Parce qu'il y a une association qui est basée ici à Nîmes, qui travaille
oui.
un peu dans ce domaine
bien sûr.
En Casamance.
Mais crois. Bien sûr,
oui.
heureusement,
oui.
heureusement, parce
oui.
que vous savez, l'océan est vraiment grand, et pour, oui. pour faire face aux besoins, il faut être nombreux. Hein.
Et il y a quelque chose qui ressort de votre livre, on en dira peut-être un peu plus tout à l'heure, c'est vous aimez la nature.
Beaucoup.
beaucoup. Vous avez travaillé beaucoup dans les bureaux et dans l'humain, mais,
oui, oui, mais
les plantes, la nature ne vous est pas étrangère.
Je suis jardinier, vous voyez, pour rien vous cacher, en venant à Nîmes, je me suis arrêté dans un endroit très jardin, une pépinière très méditerranéenne que j'aime beaucoup. À demi-heure de Nîmes à peu
oui.
près, et je jardine beaucoup, et puis je marche beaucoup, je marche un peu tout de même,
oui,
je, suis,
oui.
je vis en nature, et j'ai toujours aimé le week-end me ressourcer en nature,
ah,
il n'y a
oui,
que
oui.
là que je me suis oui. toujours ressourcé.
Alors du point de vue littéraire, vous avez commencé à publier votre premier livre, ça fait longtemps, hein ?
Oui. Oui, alors le tout premier, c'était 2004, je ne sais même pas s'il est mentionné là, c'était un livre d'histoire, n'en parlons pas, c'était purement historique. Le vrai premier livre littéraire, c'était Contes solaires en 2014. Et ce premier livre, où j'ai eu de la chance, où il y a eu une inspiration, où le jury, hein, bon, j'ai eu un premier prix.
Oui, vous avez eu plusieurs prix.
J'ai eu trois prix.
et ce prix-là, c'était...
C'était un prix du côté de Brignoles, sur la Côte d'Azur, enfin,
ouais.
Sur la Côte d'Azur. Et c'était un concours de nouvelles. Et ma première nouvelle, la première que j'ai vraiment écrite, j'ai passé, pour tout vous dire, monsieur Delors, j'ai quand même passé 3 années à essayer d'écrire après avoir été mon travail, et je ne suis pas arrivé à libérer mon style, qui était trop administratif, à mmh. libérer mon imaginaire, qui était un peu comprimé.
Oui.
Hein. J'ai mis 3 ans. Et celui-là, c'était le premier où c'est sorti, et il a eu un prix.
Ah, c'est bravo. Et vous avez eu d'autres prix.
J'ai eu deux autres prix. Un pour ce livre-là, Les étrangers du Val de Londres. C'était en 2022 dans l'Hérault.
Oui.
Et Recherche en Val de Londres a eu un prix l'an dernier du côté de Carcassonne.
Ah oui.
Oui.
Oui, ben bravo. C'est une félicitation. Alors. Et là, vous continuez à écrire.
Ah oui, oui. C'est un plaisir et une passion.
Oui. Alors, on va revenir à ce livre. Alors, Les étrangers du Val de Londres, c'était le premier tome.
C'était le premier tome de ce qui est devenu une trilogie.
Oui.
Mais je ne savais pas, en
oui.
commençant, que j'écrirais une trilogie. J'ai écrit Les étrangers du Val de Londres, qui plaît beaucoup,
oui.
aujourd'hui encore, et qui est d'ailleurs réédité depuis ce mois-ci, chez un autre éditeur. Et les lectrices et les lecteurs ont été très nombreux.
Ah oui.
Et pour moi, ça a été, oui, j'ai dépassé. Enfin,
oui.
mes éditeurs ont été surpris. Le livre est beaucoup acheté. Et du coup, les lectrices et les lecteurs me parlaient et me disaient en particulier, on aimerait bien savoir ce qu'Achille et Marie, les héros de ce livre, vont faire. Ils n'ont que 25 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire après ?
Oui.
Moi, je ne savais pas ce qu'ils allaient
oui.
faire après. Ils ont fait un beau voyage, entre parenthèses. On parlait d'Afrique du Sud tout à l'heure. Ils ont
oui.
fait un beau voyage. Et donc, et puis, les lecteurs aussi me disaient, là-dedans, dans Les étrangers, pour vivre un amour normal, ils ont eu des difficultés, Achille et Marie, parce que Marie est d'un village à 25 km près du Pic Saint-Loup. Mais Achille a un très gros défaut par rapport aux habitants, aux yeux des habitants, c'est qu'il n'est pas de là. Donc ils ne l'ont pas vu grandir à l'école, ils ne savent pas. Il vient de la ville. C'est un étranger. Et donc, pour se faire accepter, Achille va s'investir. Il va s'informer, qu'est-ce que c'est que ces vieilles pierres, qu'est-ce qu'on cultivait avant, la gelée de 56 a eu quelles conséquences, les châteaux, d'où viennent les châteaux, il est même remonté, figurez-vous, à Charlemagne, parce que le cousin de Charlemagne, le duc d'Aquitaine, le comte de Toulouse, Guillaume d'Orange, est venu fonder l'abbaye de Gélonne. Saint-Guyen-le-Désert, c'est à côté, et Saint-Guyen-le-Désert est rattaché à Saint-Guyen-le-Désert, une partie de Saint-Martin-de-Londres. Et il me disait, c'est vachement bien, mais sur le plan historique, ça s'arrête vers les années 1970. Que s'est-il passé après? Et c'est là où j'ai fait un zoom avec Recherche en Val-de-Londres sur un personnage emblématique qui est venu justement dans les années 1970, dans cet endroit. Et après ça, plus récemment, l'an dernier, j'ai écrit « Au Pic Saint-Loup, avec ou malgré vous », dans lequel Achille et Marie reviennent pour protéger l'environnement autour du Pic Saint-Loup.
Alors, avec un gros accent sur l'environnement. Quand j'ai reçu votre livre, je me suis dit, normalement, qu'est-ce que c'est que cette recherche au Val de Londres? Est-ce que c'est un livre des recherches administratives, des recherches juridiques? Et on se rend compte qu'il y a parfois un peu de ça, mais il y a beaucoup de recherches écologiques et historico-écologiques.
Tout à fait. C'est ça, hein? Sont mes passions. Puis c'est ce en quoi je crois, surtout.
Voilà. Et en même temps, on verra que ça va beaucoup plus loin aussi. On va faire une petite pause. Radio Alliance Plus, 103.2 à Nîmes. Vous êtes toujours dans l'émission Au fil des pages. Je profite pour vous rappeler le numéro de téléphone, notre numéro de téléphone, 09 43 49 85 50. Notre site internet radioalliance.fr. Et puis, vous savez que vous pouvez nous écouter sur le DAB+, à Nîmes et dans les environs, et peut-être plus tard, plus loin. Nous sommes toujours avec Didier Amouroux pour parler de ses livres et en particulier de son deuxième livre d'une trilogie qui tourne autour du Pic Saint-Loup et des environs. Ce deuxième livre s'appelle « Recherche au pluriel en Val-de-Londres ». Alors c'est nous avons parlé de vos intérêts pour l'écologie, pour l'histoire, etc. qu'on retrouve là-dedans. Mais là, on est un peu surpris au départ. On a le nom d'un personnage qui commence. Et on se dit, mais où est-ce qu'on va? et où est le Val de Londres. Et tout de suite, on nous parle d'un personnage qui naît dans le nord de la France. Mais surtout, on nous parle d'une station des Alpes, hein, c'est ça?
Oui.
Alors, on est un peu perdu, mais on se dit, ben, on a commencé à le lire, on va le continuer. Et on est embarqué, alors véritablement, dans un roman policier.
Oui, c'est... tout à fait. Un thriller.
Un thriller.
Il n'y a pas de sang dans mes romans policiers, je ne tue pas beaucoup, oui. Mais c'est un thriller, il y a du suspense.
Effectivement, il y a du suspense, on a envie d'aller plus loin. Mais très rapidement, on se rend compte que... Alors, vous aimez les descriptions et vous aimez la nature, parce qu'on parle beaucoup de des Alpes. Alors, vous aimez les Alpes, aimez le ski, vous aimez...
je suis un méditerranéen, moi.
Oui.
Mais j'aime m'oxygéner dans la montagne. Ça a été les Pyrénées pendant très, très longtemps, oui. Où j'allais tous les week-ends, pratiquement. Et maintenant, c'est plutôt les Alpes. Mais j'y vais pas si souvent que ça, malheureusement. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et puis j'ai besoin d'oxygène.
Et on a l'impression que des endroits très difficiles, inaccessibles, où vous êtes allé.
Oui, je suis allé.
Alors, on ne va pas en parler pour dévoiler le contenu du livre. On peut simplement évoquer certaines étapes. Et puis, des Alpes, on passe aussi à Paris. Un peu, pas miraculeusement, mais voilà, c'est le fil du livre. Et là, on sent que vous connaissez bien Paris aussi.
J'ai fait mes études à Paris, j'étais un étudiant très pauvre à Paris. Donc, j'ai marché beaucoup à Paris pour économiser les tickets de métro. Donc, je connais un peu. Mais en fait, j'ai fait surtout des études. Donc, je travaillais beaucoup, en fait, dans ma chambre et à la bibliothèque. Mais enfin, pour marcher à pied, rejoindre ma chambre, il fallait bien marcher. Donc, oui, je connais un peu Paris.
Vous l'avez bien décrit. Et puis, c'est un livre tout à fait... Alors, même si on parle de recherche, quand on dit recherche, donc on essaye de creuser un sujet, ou on va creuser dans l'histoire, comme on l'a dit, ou dans l'écologie, mais là, vous abordez les sujets tout à fait d'actualité. Mmh. Et ce dont on parle tous les jours à la radio, on a l'impression que vous l'avez déjà... préfiguré dans ce livre. Si, puisque le principal, le héros du livre, en quelque sorte, est embarqué dans une histoire extrêmement compliquée. Je ne sais pas si vous voulez en dire un peu plus.
Ben, le héros du livre, il est comme beaucoup d'entre nous. On croit souvent dans la vie qu'on choisit.
Oui.
Et puis souvent, on subit, ou c'est les aléas qui font qu'on prend telle voie ou telle autre. Lui, en tant que Parisien, il est Parisien et il souffre d'une chose affreuse, c'est qu'il n'a pas de père.
Oui.
Voilà. Et sa mère, elle est débordée, elle fait un petit métier, gagne pas 3 francs 6 sous et le père, il ne donne pas d'argent. Vous savez, c'est une situation courante. Ce qui fait que Gérard, il est un peu laissé à lui-même et il fait des bêtises, on va dire. Il fait des erreurs. Et ces erreurs pourraient lui coûter quand même un peu cher. Oui. Donc il y a du road movie dans le livre, parce qu'à un moment donné, il est quand même poursuivi. D'où, après, la Vanoise.
Oui.
La Vanoise où on risque moins d'être trouvé, parce que c'est très grand, très blanc, très difficile. Et puis, quelque part, après, il va chercher... Il va chercher, sans être sûr de trouver, bien sûr, mais peut-être un peu la trace de son père.
Oui.
En même temps, il fuit. Mais en même temps, il cherche.
Oui.
Et il pense que ceux qui vont le poursuivre, qui étaient de Paris, des bandes de criminels, vont peut-être pas avoir idée quand même d'aller dans le sud, surtout en pleine campagne. Enfin, il espère ça. Il change de nom, enfin, il fait différents métiers, il n'a pas de carte bancaire, il n'a pas de téléphone. Il passe un peu à travers les mailles du filet, après les avoir semés en Vanoise, où il y a moi, je trouve de très belles scènes, des beaux paysages de la nature. Et puis, chemin faisant, il va rencontrer des gens, des êtres humains, des gens qui vont lui parler, qui vont l'écouter, qui ne vont pas le juger.
Et ça, c'est en Val de Londres.
Des habitants du Val de Londres. Oui. On en trouve ailleurs, hein, mais là, c'est un Val de Londres. En Vanoise, il avait déjà trouvé quand même quelqu'un de bien aussi.
Oui, oui.
Et ces gens vont le mettre sur la piste de quelqu'un qui porte le même nom que lui, Gérard Assaraf. C'est pas courant. Oui. Sauf que celui qui portait aussi le nom de Assaraf a été bien connu en Val-de-Londres, mais après il a brouillé les pistes. Il a changé de nom. Deux fois. Une fois pour s'appeler Michel Telin et une fois Olivier Brice. Et Gérard va rencontrer des couturières du village de Viol-le-Fort, du village de Saint-Gély-du-Fesc, qui avaient travaillé pour celui qui, quand il était couturier, était connu dans le monde sous le nom de Michel Telin. Et ça, c'est vrai.
Oui.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai. Et Michel Telin, il est habillé à Mandalir.
Oui.
Et la princesse d'Iran, vous voyez, on est dans les années 70. Bon. Et puis, il va rencontrer d'autres personnes qui vont dire, mais après, il a changé, il est devenu peintre, il a sculpté. Il ne sait plus où il en est, Gérard. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça peut être mon père qui a été comme ça, finalement millionnaire, alors que ma mère n'avait pas un sou, il ne lui donnait pas un sou.
Oui, la figure du père était très intéressante hein, aussi.
Oui.
Sa vie en Afrique, en Algérie notamment.
Oui, ça, oui, complètement.
C'est très passionnant. Parce que c'est dans ce sens que je dis, on retrouve un peu des choses très actuelles.
Complètement. Et en plus, la partie relative à cet artiste fantasque est vraie.
Oui.
C'est-à-dire que lui, il a vraiment existé.
Oui. Mais ce que vous ne l'avez pas dit, mais je crois qu'on peut le dire sans déflorer le sujet, les trafics qu'il a fait, ce sont des choses dont on parle tous les jours à la radio.
Tous les jours.
Les petits trafics de drogue.
Et
l'importance que ça peut avoir, puisque tous les jours, il y a des gens qui se font tuer. Donc, quand il s'enfuit, on comprend que s'il ne l'avait pas fait, il aurait pu être
absolument
recevoir un coup de pistolet.
Surtout qu'en même temps, c'est un être humain, il a 20 ans, et il rencontre l'amour.
Oui.
Alors un amour qu'il croit sincère et qui ne va pas s'avérer l'être tout à fait, mais qui va le piéger à Paris à un moment donné, puisqu'il va espérer que la jeune femme va le suivre.
Oui.
Il rêve un peu là.
Il rêve, elle-même est embarquée dans ce... Alors, pour revenir au début aussi, j'ai été intéressé, puisque je l'ai dit, on a ce nom de Assaraf, et puis on passe tout de suite dans les Alpes. La naissance et la création de cette station
de ski.
Cette station. C'est très intéressant, parce que là, on découvre des choses, on apprend des choses.
Oui.
Que certaines de ces stations très modernes ont été des petits villages très, très classiques, et que dans les années 50-60,
même un peu plus. Oui, oui, tout à fait. Ça s'appelle les Arcs. Voilà, donc...
Ça a bouleversé la vie des gens qui habitaient là et qui élevaient leurs petits animaux.
Et oui.
Tout à coup se sont trouvés dans des villes avec des commerces et,
tout à fait.
Et des tout restaurants. À fait. Alors, j'ai dit tout à l'heure aussi que on a évoqué l'Algérie. On parle du Maroc aussi, parce que le papa...
C'était un juif marocain. Voilà. Sa famille était d'Essaouira, au bord de l'océan, donc au Maroc. Et ensuite, le père, toujours Assaraf, a émigré, entre guillemets, en Algérie, où il a tenu un commerce de couture.
Oui, et puis... il y a ce passage alors improbable, je ne sais pas là, comment vous êtes allé imaginer tout ça, ou en Afrique du Sud, là c'est plus le papa, c'est son fils qui se retrouve embarqué.
Oui.
Et là peut-être c'est le financier que vous avez été un temps.
Non, je suis comme d'autres, j'ai fait un petit séjour en Afrique du Sud, ça m'a marqué, j'ai rencontré des gens, j'ai vu différentes choses, je ne suis pas allé que dans les villes, je suis allé beaucoup en campagne. Voilà, et ça m'a donné des idées, oui.
Alors, nous disions que c'était le deuxième livre, il se poursuit. Alors, le premier livre, c'était plus écologique. Hein, c'était
oui.
Et là, dans ce livre aussi...
Il y a beaucoup de nature.
Oui, on se promène au...
Oui.
Alors, je dirais que c'est peut-être la partie qui peut surprendre. Enfin, parce que vous nous emmenez dans des chemins très précis. On a l'impression qu'on aurait aimé avoir presque une carte et dire, voilà, il est là, voilà, c'est là qu'on trouve telle sorte de plante, parce que vous vous attardez, vous définissez, vous décrivez avec précision ce que vous voyez, ce qui existe.
Oui, la végétation, parce que la végétation, elle nous entoure, il faut la respecter aussi. Oui. Figurez-vous que je fais des conférences. Et dans une de mes conférences, je montre l'itinéraire.
Ah oui.
Parce que l'itinéraire existe. Alors là, je vais vous en raconter une qui va vous faire rire, peut-être. J'ai écrit ce livre et je l'ai publié. C'était vers 2022. Et l'année d'après, ou non, 2024, je crois, l'an dernier, ou alors fin 2023, je suis allé promener de l'autre côté de la frontière, donc en Italie, dans le Val d'Aoste.
Oui.
Et dans le Val d'Aoste, j'ai pris deux vallées, et une vallée, ça s'appelle Valsigrange. J'ai marché là, j'ai marché. Et puis, moi, je ne suis pas un marcheur extraordinaire, hein, je dois dire, mais enfin, je suis tenace. Et j'ai eu très envie d'arriver jusqu'au refuge Mario Benzi. Parce que le refuge Mario Benzi, c'est le refuge dans lequel mon héros trouve un refuge à un moment donné.
Oui.
Et je me suis dit, il faut y aller, parce que lui, il est passé par la France, mais toi, vas-y de côté italien. Donc j'ai vu, j'ai senti, et l'itinéraire est un itinéraire de randonnée.
Ah oui,
c'est... Que lui, il emprunte en hiver, oui. Effectivement.
En hiver, c'est plus difficile de s'imaginer parce qu'effectivement, oui. On ne voit plus les chemins.
Avril, il a pris avril. Ouais. Avril, on peut passer tout de même.
Mm-hmm. Alors, donc, je disais, c'est le deuxième tome. Le troisième tome, le troisième tome, c'est celui-là. Vous pouvez dire le titre ?
Le troisième tome, c'est « Au pic Saint-Loup, avec ou malgré vous, point d'interrogation ». C'est la suite des aventures d'Achille et Marie qui reviennent dans la région et qui reviennent parce que maintenant, ils sont installés dans la vie, que maintenant, Achille va être accepté. Peut-être va être accepté et ils vont protéger l'environnement de façon très active dans une fondation.
Donc si vous aimez cela, vous pouvez vous précipiter sur ces livres, vous apprendrez beaucoup sur le Val de Londres, sur cette très belle région au nord de Montpellier. Vous continuez à écrire, vous avez apporté d'autres livres dont on parlera peut-être une autre fois. Mais enfin, revenez, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir et je crois qu'il n'y a pas besoin de dire bonne chance, vous l'avez déjà, vous avez un certain nombre de prix, continuez.
Merci, merci beaucoup, je vais continuer.
Eh bien voilà, l'émission va se terminer là-dessus. Merci encore Didier Amouroux d'être venu et bonne continuation.
Merci Monsieur Delors et merci à tous de nous écouter.
Au revoir.
Au revoir.